BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Clauzier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot le mag. Cette semaine, on va parler de la publicité. Quel monde a-t-elle à nous vendre? C'est la question qu'on va poser à Irène Grenet. C'est l'ancienne DG de la régie publicitaire de France Télévisions. Elle écrit un essai sur l'avenir de ce secteur. On va parler du recrutement. Tout le monde cherche à recruter aujourd'hui. Oui, mais comment gagner cette bataille? Peut-être avec plus de transparence dans les offres. On en parlera dans un instant avec Mathieu Éloi. C'est le directeur général d'Indeed en France. Et puis, on va parler des gestes qui sauvent. Vous ne le savez peut-être pas, mais tout le monde doit se former dans l'entreprise. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et on va parler publicité ensemble. Quel monde a-t-elle à nous vendre, cette publicité? Est-ce qu'elle attire encore les jeunes talents? On va en parler avec Irène Grenet. Bonjour, vous êtes ancienne directrice générale adjointe de la régie publicitaire de France Télévisions. Vous publiez un essai, La publicité dans le monde nouveau. Vous essayez un peu de faire un bilan, essayer de donner un nouveau parcours pour tout ce secteur de la publicité. Vous l'avez quitté, est-ce que vous allez y retourner?
Bonjour.
Ou finalement, vous voulez, maintenant que vous avez fait le bilan, vous vous dites, je change, je fais autre chose, moi aussi je vais élever des chèvres.
Alors c'est vrai que j'ai écrit ce livre au moment où j'ai quitté la publicité. Et actuellement, c'est un fait, je l'ai quitté. Je pense que c'est déjà quelque chose d'extrêmement agréable d'écrire sur l'industrie dans laquelle on a travaillé ou on travaille. Parce que j'ai commencé évidemment quand j'y étais encore. D'une manière générale, c'est quelque chose c'est une grande liberté de travail. Je ne parle pas de sa boîte, hein, de ne pas parler on peut écrire un bouquin sur son entreprise, on peut écrire, mais parler de son industrie, que ce soit le transport, le retail, la communication, c'est quelque chose d'à la fois libérateur et aussi ça donne une certaine distance par rapport aux problèmes de professionnels auxquels on se heurte tous, le chiffre d'affaires à rentrer, les économies à faire, les reportings qui se multiplient, etc. Donc, moi, j'ai commencé ce bouquin en étant encore dans la publicité. Là, je l'ai quitté. J'ai adoré la publicité. Mais pour le coup, je crois que j'ai...
Mais les gens font un bilan de compétences ou un burn-out, on va voir même si vous écrivez un livre.
Alors, contre le burn-out, je ne sais pas si on peut en tirer une leçon, mais en tout cas, c'est quelque chose que je recommande. Encore une fois, pour cette distance. Cette distance, parce que quand on parle... Encore une fois, on ne parle pas de sa boîte, on ne parle pas de ses petits problèmes quotidiens. On essaie de réfléchir. Je pense que ça vaut vraiment dans toutes les industries de se dire, voilà, aujourd'hui, on en reparlera peut-être, mais il y a cette question du sens et la publicité est quand même très bien placée pour réfléchir à toutes ces questions du sens dans l'entreprise, dans le travail. Eh bien, écrire un livre, c'est vraiment quelque chose qui permet vraiment de surmonter, encore une fois, des difficultés qui peuvent être quotidiennes et qui sont celles de tout le monde dans la vie professionnelle.
Est-ce que la publicité aujourd'hui, elle n'a pas clairement un problème de produit? C'est-à-dire qu'elle doit nous vendre un monde meilleur, une consommation qui nous aide, qui nous rend plus épanouis, sauf qu'aujourd'hui, la surconsommation, c'est pas ce qu'on vend. Le monde meilleur, on ne sait pas où il va, donc elle ne sait pas quoi vendre.
Vous avez tout à fait raison. C'est vraiment, la publicité, elle est vraiment en crise, et moi, je pense profondément que cette crise, comme elle en a déjà connue, cette crise, ça peut être le moment aussi de se renouveler, en tout cas de s'interroger sur elle-même. Donc effectivement, la publicité, on peut considérer qu'elle n'a pas tant changé que ça quand on la regarde à la télé, à la radio, quand on l'écoute, ou évidemment quand on parle de publicité digitale, on se dit finalement c'est quand même sympathique tous ces grands mots, mais ça n'a pas fondamentalement changé. En fait, moi ce que je pense profondément, c'est que le sujet... en gros de la transition écologique pour aller vite, mais ça vaudrait sur d'autres problématiques de RSE au sens plus large. Le sujet aujourd'hui, c'est vraiment une mise en doute de la viabilité de nos systèmes productifs. Et donc le sujet, c'est d'abord la production. Le sujet, c'est d'abord la façon dont on va réussir à produire avec moins d'énergie fossile, des produits plus durables, etc. Après, la publicité, son rôle, il est en aval. La publicité, c'est de dire, ok, vous avez cette nouvelle façon de produire, mais encore faut-il qu'elle soit désirable. Pendant des années, pendant des décennies, elle s'est assise sur le désir de consommation, le bonheur matérialiste, l'idée d'une voiture un petit peu plus grosse à chaque fois qu'on évoluait dans l'échelle socio-professionnelle. Là, aujourd'hui, le sujet, c'est de rendre désirable ces nouvelles modalités, ce nouveau pacte productif qui est une nécessité absolue.
Donc pour vous, la pub doit aider à convaincre de l'importance de la transition écologique. Absolument. Elle doit aider à rendre le projet désirable.
désirable.
En fait, exactement.
C'est anti-écologie même pas... punitive.
Alors, exactement. En fait, c'est pas qu'elle doit aider, c'est que pour moi, elle est totalement nécessaire. Alors, je sais que c'est un peu extrême comme position, mais si on ne désire pas, on meurt. C'est tout simplement cette écologie, ce monde qui doit changer. C'est une un des éléments de ce monde nouveau que j'évoque dans mon livre. Ce monde, il doit être désirable. Si c'est exactement ce que vous dites, si c'est punitif, si c'est ce que disait la Convention citoyenne sur le climat, avez-vous vraiment besoin du projet présenté ? Là, c'est complètement tétanisant pour le consommateur. Et je pense profondément qu'on n'y arrivera pas. Et on peut faire un parallèle d'ailleurs avec une dimension politique. L'écologie politique, elle n'existera et elle ne prospérera que quand elle sera véritablement désirable et elle ne jouera pas que sur les craintes ou les injonctions.
Ce qui veut dire que ça, c'est pour le côté vente, produit, mais c'est aussi le seul moyen d'attirer encore les meilleurs talents, de lutter contre toute cette génération de diplômés qui dit « je veux plus aller dans les grandes boîtes, je veux plus faire partie d'un système qui détruit la planète ». Là, vous dites « la publicité peut aider à nous sauver ».
C'est une très question absolument essentielle. Alors, dans la pub, moi, en tant que dirigeante, j'ai eu des collaborateurs, un notamment, qui était venu me voir en me disant « je ne peux pas », quelqu'un qui n'avait pas forcément de outside option, hein, qui était vraiment je ne peux pas participer à cette économie de la surconsommation, etc. Ok, et ça on l'entend parfaitement, il y a une demande de sens, notamment chez les plus jeunes générations, qui est extrêmement forte. Le travail, c'est aussi, comme la consommation, une modalité d'impact. Précisément, si la publicité, et elle est en train de le faire, j'en suis absolument convaincue, se rend compte justement que cette mutation, elle en est totalement partie prenante, bah peut-être qu'on aura quelques chances, en tout cas, de rendre la filière toujours attractive et puis de mettre cette créativité, parce que la pub, il ne faut pas oublier, c'est quand même d'abord de la créativité. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est d'abord une forme de poésie, ce que j'ai appelé de la poésie. Évidemment, c'est contestable parce que c'est une poésie utilitaire, mais c'est une créativité, donc c'est très exaltant. Mais cette créativité, elle peut être mise au service de quelque chose de l'avenir.
Vous parlez de collaborateurs qui disent « je ne peux pas continuer ». Moi, je vois des consultants qui commencent à trier les clients dans des grandes boîtes de consultants internationaux. Vous voyez ça aussi, des jeunes dans la pub qui disent « ok, moi je veux bien faire de la pub, mais pour Greenpeace, pas pour L'Oréal ».
Alors, tout ça relève de la même dimension. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de la même façon que le consommateur, il est devenu presque militant. Enfin, c'est des grandes tendances de consommation, hein. Il y a des problématiques de pouvoir d'achat, tout ça est évidemment très complexe. Mais ces grandes tendances-là, elles se voient également, effectivement, dans la sphère professionnelle. Et dans la sphère professionnelle, là encore, il y a une dimension générationnelle extrêmement forte à prendre en compte, hein. Je pense que nos aînés ne réagissaient pas comme nous et on ne réagit pas comme les plus jeunes entrants sur le marché du travail. Mais il y a cette dimension-là. Moi, j'agis, je travaille, l'entreprise et mon travail, c'est un tout. C'est mon impact sur le monde. Et effectivement, il peut y avoir ce genre de comportement.
C'est très puissant le message que vous avez de dire « venez rendre l'écologie désirable », ce qui est quand même un sacré défi. Est-ce que vous-même, quand vous vendez ce discours-là auprès des jeunes, ils vous disent « bullshit » ou ils vous écoutent ?
En fait, les jeunes, ils peuvent être convaincus. Ce qu'il faut, c'est convaincre les consommateurs. Et malheureusement, je ne suis pas en train d'avoir un discours bisounours. La publicité fait aussi du greenwashing. Et la critique, elle est réelle. C'est-à-dire que de la coupe aux lèvres, il y a quand même un peu de boulot, hein. On n'est pas encore, on n'y est pas totalement. L'idée, c'est que l'idée du greenwashing, hein, globalement, c'est de dire ok, vous avez de tellement beaux discours que ça peut cacher l'absence d'actes. Donc ça, évidemment, c'est la critique fondamentale, et pour moi, c'est ce que j'ai appelé la troisième forme d'anti-pub. Il y en a plein de formes d'anti-pub, hein. Alors la pub est très contestée, mais la dernière et la plus puissante aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est de dire la publicité, vous êtes tellement malin, vous êtes saisie de tous ces sujets avec beaucoup de créativité, justement, tout ça pour ne rien faire. Moi, je pense qu'il faut prendre le sujet à l'envers, c'est-à-dire qu'il faut faire, mais également en parler et également générer le désir. Et dans ces cas-là, le pacte avec la production, il est extrêmement vertueux. Encore une fois, je parle d'un idéal, mais je pense profondément, il y a des tas d'exemples qui le montrent, je pense profondément que la communication est une aide extraordinairement importante dans un monde très complexe, hein, qui est très en mutation, très très profonde. Encore une fois, hein, notre capitalisme est en train d'évoluer de manière, et devra évoluer de manière extrêmement forte, et la communication est une aide.
Maintenant que vous avez écrit ce livre, vous m'avez dit que vous n'êtes pas dégoûté de la publicité, vous continuez de défendre le secteur. On vous cite régulièrement dans la liste des femmes qui potentiellement pourraient diriger une entreprise du CAC 40. Vous êtes un peu dans la lignée de Marguerite Bérard qui travaille à la BNP. On se projette ou ça vous dit ?
Alors, moi,
j'ai pas de poste à proposer. Hein.
Mais alors, j'avais pas eu l'idée de travailler dans le journalisme, mais je continue à adorer les médias. Vous savez, alors là, pour le coup, moi, je suis partie à un moment où ça allait bien, parce que je suis en total. J'ai une conviction forte, c'est qu'il faut partir quand ça va bien, qu'on est en apprentissage continu. C'est pas des vains mots. Je viens d'une famille d'enseignants, d'intellectuels, où on est toujours un peu en transit, on a toujours ses preuves à faire. Et je pense que c'est un peu la grenouille, si vous voulez, qu'on met dans l'eau froide, qu'on porte à ébullition petit à petit, et qui s'endort, alors que si on la plonge directement dans l'eau bouillante, elle s'échappe. Moi, je préfère être directement dans l'eau bouillante pour m'échapper. Donc, à partir de là, je me suis échappée. Maintenant, la question, c'est je recherche toujours la même chose dans mon bonheur professionnel. C'est l'acquisition de compétences, d'apprentissage, comme je disais, parce que je pense que c'est sur le plan opérationnel. Et que ce soit dans la fonction publique ou dans l'entreprise, les sujets sont rigoureusement les mêmes. Le management des humains est exactement le même. Et puis aussi, alors, pour le coup, cette dimension de prédire le monde, le terme est un peu avec toute la modestie qui s'impose, mais là j'écris un autre ouvrage sur la place de la culture dans le leadership, et je pose la question, est-ce que la culture a un rôle dans le leadership, et je pense que oui.
Partez quand vous êtes au top, c'est ce que j'aurais retenu quand même, et l'histoire de la grenouille qui est mieux dans l'eau bouillante, ça va plus vite. Merci beaucoup Irène Grenet d'avoir venue nous voir, vous publiez La publicité dans un nouveau monde. On va parler recrutement, on continue.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, Better Together.
Et on est avec Mathieu Éloi, directeur général d'Indeed France. Bonjour.
Bonjour.
Mathieu, avant je recevais quelques entreprises qui avaient des problèmes de recrutement. Maintenant, je reçois tout le monde qui a des problèmes de recrutement. Comment on fait pour gagner cette bataille ? Est-ce qu'il faut être plus drôle que les autres quand on est un recruteur, plus transparent, plus intéressant? C'est quoi, vous qui avez cette base de données énorme Indeed, ce que vous voyez ressortir?
C'est vrai qu'il y a une énorme tension, hein. Il y a 1,2 million de jobs qui sont publiés sur la plateforme d'Indeed, c'est plus de 50% par rapport à la période pré-Covid, donc c'est énorme. Ouais. Et comme il n'y a pas 50% de jobs en plus dans l'économie réelle, ça veut tout simplement dire qu'il y a beaucoup de postes qui sont vides et de gens qui vont quitter. Donc effectivement, il faut trouver les moyens de séduire les gens. Et parmi les mots que vous avez cités, celui qui me paraît le plus intéressant me paraît être le sujet de la transparence. On pousse les entreprises à être extrêmement transparents sur ce qu'ils proposent, le deal qu'ils proposent aux candidats, puisque les candidats ont, d'une manière générale, décidé de changer de vie, et donc il faut qu'ils soient en position de choisir leur prochaine vie.
Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire des offres d'emploi avec beaucoup de descriptions ? Ça veut dire une honnêteté sur l'emploi du temps, les chefs ? Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire tout ça aujourd'hui, avec la période qu'on vient de vivre, un tas de gens ont un peu réévalué leur rapport au travail, l'envie qu'ils avaient de travailler, ou surtout de comment travailler, y compris chacun d'entre nous. Hein, on a fait cette expérience collective, et donc ça veut dire qu'au moment de réévaluer ce choix-là, il faut qu'ils soient en position de choisir. Donc, je dois être en position de pouvoir choisir mon salaire, la possibilité de travailler en hybride, la distance à mon domicile, les avantages que donne l'entreprise, etc. Donc, la transparence, ça va supposer faire tout ça. Ça a l'air comme ça d'être une liste à la Prévert, mais en réalité, c'est assez compliqué. On investit beaucoup d'énergie pour pousser les entreprises à publier les salaires, par exemple, ouais. Et la plupart des entreprises ne veulent pas le faire.
Oui.
Alors que nous, on pense que chacun doit être en position de choisir son destin et de dire dans quelle entreprise.
Pourquoi ils ne veulent pas le faire ?
Parce qu'ils veulent pas. Ils ont peur de se comparer aux autres.
Toujours à déterminer en fonction du profil. Il y a toujours ça.
Non, c'est plutôt que chacun veut être le plus attractif, ou en tout cas ne pas souffrir d'un problème d'attraction. Et donc, quand on publie son salaire, on peut éventuellement se comparer aux autres, etc., ce qui fait un peu peur. Mais nous, on pense que les choses sont beaucoup plus compliquées et subtiles que ça, et que le salaire est un des critères, mais il y en a plein d'autres, et que chacun peut trouver sa place dans cet écosystème.
Parce que les gens, sur la question du salaire, moi j'entends bien qu'il y a aujourd'hui un rééquilibrage avec le niveau de vie, enfin avec l'équilibre de vie personnelle, etc. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce qui change votre vie, si c'est pas le politique, c'est votre salaire. Donc c'est quand même le nerf de la guerre, ça reste ça. Les négociations sont de plus en plus difficiles et pourtant j'ai des entreprises qui freinent.
C'est pas que ça. Je pense qu'il faut qu'on prenne conscience de la magnitude du changement qu'on vient de traverser. Des gens qui peuvent aller au travail 2 ou 3 jours par semaine, pour tous les gens qui ont des familles, des situations compliquées, travaillent loin de leur domicile, ça change tout dans la vie. Donc le salaire est une des composantes, et c'est sûr qu'on a des sujets de pouvoir d'achat. Mais par exemple, avec le même salaire, si vous habitez dans 2 endroits différents, vous allez avoir une situation de vie complètement différente. Donc le deal global que proposent les entreprises, c'est ça qui est important. Et sur Indeed, on voit bien les statistiques, il y a 7 millions de personnes qui viennent sur Indeed tous les mois, donc on est un bon observatoire. Mmh. On observe que les gens font des recherches sur le travail hybride et sur le télétravail 5 fois plus qu'avant Covid. Les entreprises ne publient cette notion que 3 fois plus. Ça veut bien dire qu'il y a un décalage entre les attentes des chercheurs d'emploi et les entreprises. Et c'est ce décalage qui explique en large partie le problème qu'on a sur le marché de l'emploi aujourd'hui.
Donc celui qui remporte la bataille de l'attractivité, ok, celui qui est le plus transparent, mais celui qui est le plus flexible aussi, si je comprends bien. Celui qui dit, moi, je n'ai pas des règles précises de cadre de travail, j'écoute votre volonté.
Je pense que c'est la transparence du deal. Il y a des gens qui ont envie d'aller tous les jours au boulot. Il y a des gens qui ont envie d'être tous les jours chez eux. Il y a des gens qui veulent un peu des deux. Donc, la mission d'une entreprise, c'est évidemment de réinventer ses pratiques de management à l'issue de cette aventure collective qu'on vient de traverser, mais c'est aussi d'être clair sur ce qu'elle propose aux collaborateurs. On a récemment Indeed et Glassdoor font partie du même groupe. Avec Glassdoor, on a récemment publié une étude sur les meilleures équipes de management. À partir d'un postulat, c'est qu'on quitte une entreprise, non pas parce que c'est une mauvaise entreprise, mais parce qu'il y a une mauvaise équipe de management et une mauvaise qualité de management.
Donc, on quitte son chef.
Réinventer le management est une des responsabilités des entreprises, mais aussi dire ce qu'on en pense, c'est dire ce qu'on veut en faire.
Mais à vous entendre, j'ai l'impression que les entreprises sont lentes, alors que je ne reçois que des DRH à la pointe de la pointe de toutes les innovations, et qu'en fait, il y a quand même une difficulté à comprendre le marché du travail et la rapidité de son évolution. Ou alors, c'est allé trop vite.
Ben, c'est allé extrêmement vite, oui. C'est allé extrêmement vite, et c'est vrai que les chercheurs d'emploi ont radicalement changé, leurs attentes ont radicalement changé. C'est d'ailleurs ce qui explique le fait qu'on ait tant de postes vacants en France. Hein. Il y a des légions de gens qui ont choisi de changer de métier. Quand on regarde aujourd'hui les statistiques de l'emploi, vous voyez que vous avez en France, c'est d'ailleurs un des problèmes de la France, hein. Vous avez moins 17% de jobs dans le monde industriel et vous avez plus 50% de jobs quotidiens. Dans le monde industriel, je voulais dire dans le monde de l'industrie et de la technologie. Donc disons les jobs de demain, les jobs productifs, plus 50% sur les jobs du quotidien qui sont moins productifs. Donc ça veut bien dire qu'il y a toute une frange de gens qui ont décidé de délaisser un certain nombre de jobs et qu'aujourd'hui, il faut réinventer les manières de faire, oui.
Et quand vous les voyez, parce qu'ils payent pour mettre leurs offres d'emploi sur Indeed, vous leur conseillez quoi ?
Alors, d'abord, Indeed est entièrement gratuit jusqu'au jour où on veut accélérer. Et ce jour-là, effectivement, on peut remonter notre tas de recherche.
Donc, je peux mettre mon offre d'emploi sans payer ?
Absolument. Absolument. Et on leur dit 2 choses. On leur dit d'abord, soyez le plus transparent possible et engagez-vous dans une chose qui est générer la rencontre avec les candidats. Nous, on pense que, en tout cas pour tous ces jobs du quotidien, la sélection par le CV est une chose qui ne fonctionne plus. Il y a 90% des gens qui ne reçoivent pas de réponse, même en période de crise du travail, qui ne reçoivent pas de réponse à leur candidature. Et de l'autre côté, les recruteurs reçoivent des candidats de mauvaise qualité, passent 82% de leur temps à analyser et organiser des rendez-vous auxquels les gens ne viennent pas. Donc, il y a un truc qui ne marche plus. Donc, nous, ce qu'on dit à nos recruteurs, c'est investissez dans le fait de rencontrer le plus vite possible des candidats. Il y a aujourd'hui des possibilités, nous on en offre une, de plus avoir sur les annonces un bouton candidater, mais un bouton rencontrer un recruteur, ce qui fait que je vais pouvoir rencontrer directement quelqu'un.
Avant même d'avoir envoyé le CV, c'est-à-dire que vous renversez complètement l'entretien qui arrivait après
exactement,
le CV.
Exactement.
Rencontrez-vous, regardez les CV après.
Exactement. 30 jours pour recevoir une réponse que je reçois pas dans 90% des cas, c'est un deal qui ne fonctionne pas. Donc, il faut trouver des moyens de le faire et c'est ce sur quoi les 5000 ingénieurs d'Indeed travaillent tous les jours.
Merci beaucoup Mathieu Eloy, directeur général d'Indeed France. On va parler des gestes qui sauvent et de la formation qui va avec.
Merci beaucoup.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business Case.
On est avec Emmanuel Bourset, fondateur d'Un Seul Geste. Bonjour. On va parler formation des gestes qui sauvent. On est tous conscients, il n'est pas ici question de nous convaincre que c'est important. Mais par contre, on ne trouve pas le temps. C'est quoi notre problème ? Pourquoi on trouve une heure pour faire plein de choses ? Vous proposez de la formation en une heure et pourtant, eh ben j'ai toujours pas fait.
Alors, je pense qu'en une heure, ça peut se faire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les formations secourisme, elles durent une ou deux journées. Et c'est vrai que bloquer ces salariés pendant deux jours pour leur faire une formation qui n'est pas productive dans leur job au quotidien, c'est compliqué. C'est une décision compliquée à prendre pour le RH ou l'employeur.
Mais comment vous pouvez m'apprendre en une heure ce que je devrais faire en un jour ou deux avec des secouristes ?
Alors, en fait, on utilise une technologie qui est la réalité virtuelle, qui permet d'apprendre en immersion. Donc, il faut imaginer que c'est un simulateur. Vous allez apprendre. Vous avez un casque de réalité virtuelle, un mannequin de secourisme qui est physique, qui est là. Mais à la place du mannequin, vous allez voir une victime. On vous plonge dans des cas pratiques. Donc, vous apprenez, vous pratiquez. Vous allez avoir des sensations, des émotions.
Mais le fait de voir que c'est une vraie personne, enfin d'imaginer, ça change tout.
Ça change tout parce qu'en fait, on est très peu à être formé en France, mais surtout, on pratique plus ensuite. Donc, le jour où on est confronté à l'urgence vitale, on sait plus réagir. On a oublié, on est choqué, on sait pas faire. Là, en fait, notre cerveau, on va mobiliser la mémoire émotionnelle grâce à cette formation en réalité virtuelle. On va avoir des émotions, des sensations. Et le jour où on va être confronté à l'urgence vitale, le cerveau va remonter ce qu'il a vécu.
Donc, c'est le fait de me mettre en situation d'urgence qui fait que ça va créer un choc comme si je l'avais vécu et je vais m'en souvenir.
Exactement. C'est ce principe. Là, je suis sûr que vous vous souvenez ce que vous faisiez le jour des attentats du 11 septembre ou du Bataclan, vous en souviendrez toute votre vie, toute proportion gardée, c'est le même mécanisme qu'on active dans la mémoire émotionnelle.
Donc vous allez me choquer quoi.
On vous choque pas, mais on imprime en fait les gestes, exactement.
Le casque de réalité virtuelle, du coup, c'est l'environnement, le mannequin, il y a du son, ça se passe comment?
Ouais, en fait on vit une véritable formation. On a un formateur que pour soi pendant une heure et puis on va être à un moment plongé dans un cas réel. Donc on est dans un décor qu'on connaît pas, avec des gens qu'on connaît pas, il y a une personne au sol et il faut agir. Donc vous devez décider d'appeler les pompiers, comprendre ce qui se passe, est-ce que la personne respire ou pas, est-ce qu'elle est consciente ou pas. Et puis à un moment, vous allez décider de masser, utiliser un défibrillateur et ça s'arrête, c'est du temps réel, hein. Ça dure longtemps et ça s'arrête quand les pompiers arrivent. Ils vont vous féliciter comme dans la vraie vie. Vous avez, c'est très gamifié, vous allez gagner des badges, vous avez un score à la fin. Tout est fait en fait pour que quand vous sortiez de la formation, vous vous sentiez capable de refaire ces gestes.
Et pourtant, vous me dites gamifié comme s'il fallait que je joue pour comprendre que c'était important.
Vous savez que en fait, on apprend le mieux quand on joue et quand on est mobile, quand on est acteur de sa formation.
Quand on se rend pas compte qu'on apprend, quoi.
C'est ça. Vous le vivez en fait, donc vous vous êtes emporté dans une aventure. Et en fait, c'est une aventure qui vous permet d'apprendre.
Vous vendez cette formation, enfin vous la proposez aux entreprises. Quand vous faites vos démarches commerciales, que vous êtes face à des DRH ou des DG, ils vous disent pas c'est pas vraiment mon sujet. Si les gens ont envie de se former à titre personnel, ils peuvent le faire, mais moi c'est plutôt l'anglais ou le marketing, quoi.
Ouais. Alors déjà il y a un sujet, il y a une loi qui s'appelle la loi du citoyen sauveteur qui a été votée et qui est entrée en action il y a un an, qui oblige l'employeur à former ses salariés avant leur départ à la retraite. On aurait préféré que ça soit à l'entrée dans l'entreprise. Mais ça, on a beaucoup d'entreprises qui nous contactent pour le faire. C'est en train de se mettre en place.
Je ne savais même pas que ça existait. Ouais.
Et deuxième point, qui est peut-être le plus important, c'est qu'aujourd'hui, toutes les entreprises, et ça on le voit tous les jours, sont engagées dans des démarches de qualité de vie au travail pour améliorer en fait la vie au travail de leurs collaborateurs. Et clairement, former au secourisme ses collaborateurs, ça rentre là-dedans. Tout le monde a envie d'être formé, mais en fait, on ne l'a jamais fait. Parce que cette formation, elle est un peu inaccessible, un peu cachée. C'est pas si facile, on l'a dit tout à l'heure, de se dégager une ou deux journées, de payer cette formation. Et là, en fait, elle dure une heure. Tout le monde peut prendre une heure sur son emploi du temps, même un manager. Et donc, ça devient possible. Et
donc, c'est facile, votre démarche commerciale?
Je pense que comme notre sujet est inhabituel, ça nous permet d'ouvrir les portes plus facilement. Et puis ensuite, on fait tester cette formation aux décideurs. On fait des journées pilotes, hein, tout simplement. Et ensuite, à la fin de la journée, l'entreprise décide de déployer ou pas.
Est-ce qu'il y a, je vais vous poser une question qui va paraître absurde, mais est-ce qu'on peut être totalement nul? C'est-à-dire être pas capable, quoi, vis-à-vis de l'urgence. Vous me dites, vous allez me mettre dans une situation un peu choquante, etc. Ça se trouve, je suis pas capable, en fait, d'aider.
Alors,
avec
les formations telles qu'elles existent aujourd'hui, les formations traditionnelles, ce qu'on constate et ce que disent toutes les personnes qui les suivent, c'est qu'elles ont oublié très vite et qu'elles se sentent plus capables. Avec la formation proposée par D'un seul geste, on suit les gens dans le temps. On a un taux de satisfaction à la sortie de la formation de 97%. Et un an après, on a 70% des gens formés qui nous déclarent toujours se sentir capables de pratiquer les gestes qu'ils ont appris. C'est ça qui change tout, en fait.
Donc ça aide presque à la confiance en soi.
Ça donne confiance en soi. On se sent totalement apte à pouvoir refaire les gestes. On n'a pas envie que ça arrive.
Oui, hein, oui.
Mais en tout cas, on se dit, ok, si j'ai quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, je sais comment réagir. Si mon enfant s'étouffe demain, je me suis entraîné à faire ces gestes. Je les ai éprouvés physiquement. Donc, je saurais les refaire.
Merci beaucoup, Emmanuel Bourset, fondateur d'Un Seul Geste, la formation aux gestes qui sauvent, qui dure une heure grâce à un casque de réalité virtuelle. C'est la fin d'Happy Boulot Le Mag. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business. Je vous souhaite un excellent week-end.
BFM Business, Happy Boulot Le Mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.